Dans le cadre de l'exposition estivale Bordure à Migennes, du 25 juillet au 31 octobre 2020, et en partenariat avec Triage FM, Canal Satellite Art Contemporain présente une lecture d'un récit de vie de l'artiste Isabelle Sordage.
Épisode 1. Je venais de boucler ma dernière sculpture, trois minuscules tweeters fixés dans un angle de mur, les plus petits haut-parleurs jamais trouvés dans le commerce ces années-là. Je tirais trois câbles vers les amplificateurs reliés aux tweeters. Une TR-707 diffusait de brèves impulsions dont les réglages suggéraient un triangle en rotation. Restée seule dans l'atelier, j'éteignis un à un les Revox, puis les lampes orientées vers le plan de travail sur lequel était agencé le matériel d'enregistrement et de diffusion sonore. Par habitude, je fis glisser les potentiomètres de la table de mixage à zéro. Les Ramsas s'étaient tus. L'éclairage d'une cabine acoustique persistait à irradier le studio d'une lumière diffuse. Je rassemblai mes dernières affaires et m'allongeai sur le sol, recouvert de moquettes sombres. J'attendais ton retour pour t'annoncer ma décision. L'odeur du matériel encore chaud laissait place à un silence bourdonnant. Je fermais les yeux. Sculpter ou dessiner avec du son. C'est ce que tu avais initié en créant cet atelier. L'école avait acquis le statut d'école pilote d'art et de recherche. Et cette appellation nous avait valu la création de laboratoires tels que le tien, dans lesquels de nouvelles expériences sensibles étaient rendues possibles. L'école était somptueuse. Un revêtement de galets en recouvrait les murs dans un effet de pointillisme régulier. L'architecture avait été conçue autour d'une villa rouge dans un domaine de plus de 2 hectares de jardin. Un empilement d'espace à l'éclairage zénithal offrait des séquences architecturales inédites au milieu desquelles des expériences artistiques étaient inventées. L'architecture avait été conçue autour d'une villa rouge dans un domaine de plus de 2 hectares de jardin. Un empilement d'espace à l'éclairage zénithal offrait des séquences architecturales inédites au milieu desquelles des expériences artistiques étaient inventées. Nos ateliers donnaient sur des chemins intérieurs végétalisés dans lesquels traînaient toutes sortes d'objets, de matériaux, d'ébauches d'œuvres, de constructions énigmatiques. Le plus signifiant était l'odeur récurrente de peinture, de solvant et la musique qui émanait des ateliers. L'école était construite sur plusieurs niveaux. Des terrasses intermédiaires offraient une ouverture sur le ciel et surplombaient la ville de Nice. Une multitude de petits escaliers traversaient les différents bâtiments. Nous aimions y flâner. Un jour, cette esthétique du labyrinthe m'avait mené jusqu'au sous-sol, où des salles vides aux larges superficies bétonnées et un théâtre condamné offraient une palette exceptionnelle de réverbération et d'écho. La lumière naturelle ne pénétrait pas jusque-là, sinon par reflets ou détournements. L'endroit était sombre, mais idéal pour travailler l'écoute. Là, j'avais fabriqué des lignes sonores en jouant de points de diffusion pour dessiner avec le son. Les échos entraient dans la composition de mes dessins sonores. Ils jouaient d'impulsions, de souffles, de phonèmes de fréquence. Ce sous-sol m'avait également permis d'enregistrer et d'amplifier des silences ambiants, des zooms sur le réel en quelque sorte. Tout en songeant à mes futures pièces, je me demandais comment la vie allait ensuite nourrir ma recherche artistique, la fin de mes études approchées. Fallait-il partir à Stanford pour explorer les dernières découvertes sur la synthèse du son par ordinateur, le monde passant gentiment de l'analogique au numérique, ou s'isoler quelque part dans le silence? J'avais récemment découvert un petit village de montagne, un de ceux qui hantaient encore l'imaginaire des hommes. Revenir sur les sources d'inspiration que fut la nature et rester à l'écoute des signes du réel me semblait incontournable. Mon choix était fait. Perdu dans mes pensées, le regard fixé au plafond, j'entendis ta main sur la poignée de la porte. Aussitôt, je me levai et me dirigeai vers le sas pour te faire part de ma décision. Lars, je vais habiter dans un petit village de montagne. J'envisage ce départ comme une expérience artistique à part entière. Mais l'idée t'avait déplu. Jamais dans un village, m'avais-tu dit, les bras levés au ciel. J'étais jeune. J'avais répondu, je n'ai pas peur. Un matin, j'avais bourré ma voiture de câbles, d'un tas de cartons remplis de bandes magnétiques, trié mes micros, enregistreurs, haut-parleurs et bien d'autres choses ayant attrait à mon travail sonore. J'avais rajouté quelques carnets de croquis, crayons, fusains et j'étais partie. Je pensais à mes années d'études à tes côtés, à ton enseignement. Je m'interrogeais sur mon nouveau statut, sur la façon de me présenter. Bonjour, je suis artiste, je sculpte avec le son. L'écoute est ma première activité. Je m'entraînais à haute voix pour en éprouver l'exactitude. Je suis artiste, je suis artiste, je sculpte avec le son. L'écoute est ma première activité. Mais la nécessité de l'art était-elle vraie partout? Depuis Nice, j'avais suivi la route de l'arrière-pays niçois pour arriver jusqu'à Clans, jusqu'à sa place principale. Très vite, je trouvai où loger. Un petit appartement d'allure moyenne au loyer quasi inexistant. L'installation électrique semblait correcte. Je câblai immédiatement mon matériel, aménageai mon nouvel atelier. La maison surplombait un champ depuis lequel le village, construit sur plusieurs paliers, m'apparut dans sa globalité, depuis les plaines jusqu'aux bergeries en montagne. Le village était enrichi d'un parcours de chapelles peintes. On en comptait sept, parmi lesquelles la chapelle Saint-Antoine, avec ses fresques relatant l'histoire de Saint-Antoine l'ermite, dont la réputation de guérisseur m'était parvenue comme message premier adressé aux nouveaux venus. La plupart des chapelles du Haut-Pays étaient peintes, et cela me semblait une bonne raison pour passer du temps ici. Autrefois ouverte pour accueillir et abriter les voyageurs, leur façade avait été fermée. Seule une porte en offrait l'accès. Pour voir ces peintures, il fallait demander les clés à une vieille femme du village, sourde au tambourinage de porte lorsqu'il s'agissait de les prêter à un inconnu. Après plusieurs tentatives, j'avais tapé avec le poing sur la porte en bois. À force d'insistance, une voix tremblante s'était faite entendre à travers les volets que la vieille femme entr'ouvrait à peine. « Vous êtes qui ?» m'avait-elle demandé. Ainsi, j'avais décliné mon identité, m'étant suffisamment entraînée à le faire. Une main était alors apparue, agrippant un gros trousseau de clés en fer à tête ronde que la vieille femme agita en criant « N'oubliez pas de me le ramener avant la messe !» Il m'arrivait de passer des journées à regarder ces peintures vouées à la louange du monde et à l'adoration de Dieu. Mais plus que tout, j'aimais écouter la richesse acoustique de ces architectures, notamment autour du maître-autel, lieu de recueillement dans lequel le son avait toujours eu une place solennelle. Si on parlait de patrimoine pour l'architecture, je pensais que l'acoustique méritait également cette appellation. Chaque chapelle avait une manière singulière de sonner. Je cherchais dans les murs des poteries acoustiques, des vases enfouis et maçonnés dont les qualités de résonateurs étaient autrefois mises au service des prêcheurs afin d'en clarifier les discours. Mais je n'y trouvais que de vieilles pierres gravées de dates, de prénoms. Y découvrais d'autres paysages pour l'oreille. Ici, les murs chuchotaient des histoires, parfois même des histoires d'amour. Derrière la collégiale se trouvait le vieux village entrelacé de ruelles pavées et étroites qui descendaient vers des petits jardins. Les fontaines et les lavoirs y étaient nombreux. Je suivais l'eau et ses sonorités comme un fil d'Ariane aurait parcouru le village. Depuis une source située en montagne, à quelques heures de marche sur un long canal recouvert de vieilles dalles, jusqu'aux habitations dans le village. À Clans, l'eau était un repère inévitable. J'avais fini par reconnaître le clapotis des fontaines qui résonnait différemment suivant les ruelles étroites où la pierre dominait. L'ambiance du vieux Clans n'était pas sans rappeler l'impact d'un héritage féodal dans lequel chacun avait eu sa place autrefois. Le fou comme le seigneur. Ces liens de dépendance d'homme à homme avaient-ils toujours été honnêtes pour donner à ce village le nom de Clans? Ce nom venait-il d'une division de groupes, de seigneuries ou de grandes familles? Plus haut, derrière le village, m'était offert, comme au fou, ce territoire à part que désignait la forêt. Durant les premiers mois, j'y errais volontiers, enregistreur en bandoulière et carnet de croquis à la main. Je marchais inlassablement au milieu des arbres, dessinais, enregistrais. Après la forêt et ses cours d'eau, un léger souffle d'air frais annonçait les alpages. Alors je laissais en arrière les arbres, la vallée et ses restanques. J'écoutais là-haut le vent et l'espace au bord du vide qui n'avait de fin que le ciel et l'horizon. Il m'arrivait de penser à ta mise en garde, mais la curiosité me poussait à explorer les ressources que recelait ce village, dans lequel les décors d'animaux, le bois et la pierre accompagnaient la solitude des forêts. Qui étaient ces gens qui vivaient là et dont certains n'étaient plus redescendus en ville depuis des années? Comme la plupart des villages de la Tinée, Clans bénéficiait d'une auberge, à la fois bar, tabac, d'une épicerie, d'une petite école à classe unique et d'une place centrale reconnue comme lieu de rendez-vous principal. C'était là que la population se retrouvait, souvent par petits groupes, à l'ombre d'une allée de tilleuls. Sous cette clé de voûte se tenait également le café du même nom, réputé pour sa restauration et ses raviolis du dimanche. Je compris très vite que la place et le bar jouaient un rôle décisif dans la vie collective. Les réunions politiques se préparaient là, les rencontres amoureuses y étaient rendues publiques. Les rires, les silences, les éclats de voix désignaient le café des tilleuls. En fin d'après-midi, les anciens venaient s'asseoir sur un muret situé face au bar, où se trouvaient encore scellés les anneaux de métal auxquels les mulets et les chevaux étaient autrefois attachés. Les anciens nourrissaient la même discrétion que la nature dans laquelle ils avaient grandi, la forêt et la montagne. Il parlait d'une connaissance oubliée. J'associais à ces mots les lois intrinsèques à la nature avec laquelle ils avaient vécu, celles que je m'efforçais d'observer et de comprendre. Le naturel se travaille, disait-il, mais la limpidité des paysages demande l'effort d'écouter. Lars, tu m'avais initié à l'écoute et me parlais non de corps dans l'espace, mais d'espace dans le corps. Comment comprendre cela lorsqu'on a 25 ans ? Comment comprendre cela tout court ? Dans le village, les vieux montagnards allaient m'initier à l'inverse. Du moins, je le croyais. Là-haut, tout semblait tourner au dehors. Les paysages sonores portaient l'action des hommes. Depuis les plaines et les jardins, on entendait les voix et les cris de bêtes monter jusqu'au village. Moi, je voulais inventer des œuvres sonores. Je souhaitais à mon tour que l'espace intérieur meuble la vie des hommes, que l'espace au dehors fût habité par l'art et que ces espaces sensibles ouvrent à d'autres grands mystères.